VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Et les midi à Niamey, bonjour à tous. Patrice Talon, probable vainqueur de l'élection présidentielle au Bénin. Les résultats officiels n'ont pas encore été annoncés, mais l'adversaire de l'homme d'affaires et roi du coton, Lionel Zinsou, a reconnu dans la nuit de dimanche à lundi sa défaite. L'écart est significatif. La victoire électorale de M. Talon est certaine, a déclaré par téléphone à l'AFP le premier ministre sortant du Bénin. Lionel Zinsou n'a pas souhaité communiquer de chiffres concernant le scrutin, mais la commission électorale pourrait annoncer des résultats provisoires, probablement dans la journée d'aujourd'hui, a-t-il précisé. Au Niger, l'heure à la compilation des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Le scrutin d'hier s'est déroulé sans incident majeur, mais la participation semblait faible à Niamey. L'opposition qui avait qualifié ce second tour de non-événement avait appelé ses militants à rester chez eux en guise de boycott. Écoutons Amadou Boubacar Cissé, un des responsables de la COPA 2016, l'opposition nigérienne qui a appelé au boycott, je l'ai dit, du scrutin.
Les bureaux de vote étaient pratiquement déserts. Donc ça, aujourd'hui, on peut très clairement indiquer que c'est un vote sanction. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons indiqué que ces élections, nous ne pouvons pas accepter les résultats, ni les institutions issues de ce scrutin.
On va au Sénégal. Les Sénégalais étaient également aux urnes hier dans le cadre du référendum sur les réformes constitutionnelles, dont la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. La consultation a pris des allures de vote pour contre le président, notre correspondante Sokna.
Vers les coups de 21h, le taux de participation sur l'étendue du territoire était de près de 45%. Le oui et le non étaient au coude à coude. C'est le cas dans certains bureaux de vote un peu partout dans le pays. Toutefois, dans le centre où a voté le chef de l'État, Macky Sall, le oui caracole largement en tête. Dans son bureau de vote, il y a eu 1821 inscrits avec 603 votants, 328 bulletins en faveur du oui et 271 bulletins en faveur du non. Dans le département de Mbacké, où se trouve la ville religieuse de Touba, c'est le nom qui l'emporte. Des responsables de l'opposition ont réussi à convaincre des citoyens dans leur fief. Au cours de la journée de vote, un incident majeur a secoué les médias, mais aussi la classe politique. La chaîne de télévision privée Walfadjiri a été menacée de fermeture par les autorités, selon son président directeur général. On lui reprocherait de faire une campagne en faveur du non. Sidi Lamine Niass se défend.
Comme on le fait dans toutes les télévisions, commenter, prendre des correspondants, on n'a rien fait contrairement à ce qui se fait dans les autres organes.
Le directeur de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes cité dans cette affaire et parle d'un simple échange de propos sur le respect du code électoral. Le faible taux de participation a été noté dans plusieurs localités. Ce lundi, les premiers résultats devraient être connus. Sornana Tambay Dakar, VOA Afrique.
En République centrafricaine, deux semaines après le gigantesque incendie qui a ravagé une bonne partie du marché central de Bangui, les commerçants tentent de se réorganiser en l'absence de l'appui des autorités. Ces hommes et femmes se lancent dans la construction de nouveaux kiosques. Reportage Freeman Sipila.
Dans la nuit du 4 au 5 mars, un incendie dont l'origine reste inconnue décime l'aile droite du marché central de Bangui. Ce jour-là, plusieurs dizaines de commerces et de fortes sommes d'argent sont partis en fumée. Le matin, c'est la consternation. Des commerçants appellent le gouvernement à l'aide.
Tout est à terre. Tous les commerçants du marché central sont en train de pleurer. On demande une aide urgente à notre gouvernement centrafricain. Les centrafricains ont perdu des millions.
Deux semaines après cet appel, aucune réponse favorable n'est enregistrée. Le maire de Bangui, après une réunion avec quelques représentants des victimes de l'incendie, n'a rien promis en dehors des démarches auprès des partenaires. Aujourd'hui, les commerçants décident eux-mêmes de reconstruire leurs kiosques et magasins. Bienvenue Willy Bouna, un des délégués.
Oui, ça c'est l'effort de chaque commerçant. Parce que depuis l'incendie, on n'a eu aucun aide du gouvernement, d'une association, d'une autre part. Je sais que les commerçants des commerçants, ils ne peuvent pas laisser bras croisés pour attendre jusqu'à ce que le gouvernement fait quelque chose. Ça, c'est une initiative personnelle. Les gens contribuaient pour enlever les décombres et puis c'est à eux-mêmes de cotiser pour faire reconstruire leur boutique. On a combien de ministères à Bangui? Mais depuis ce temps que cet incendie s'est produit, il n'y a aucun membre du gouvernement nous a rendu visite. Ça, c'est le mal que je déplore.
Pendant que les travaux se poursuivent sous la pluie battante de ce dimanche 20 mars, certaines vendeuses étalent leurs marchandises à même le sol aux abords de la grande route.
Par rapport à l'incendie qui s'est produit ici au marché, c'est pourquoi on s'est installé ici dehors pour vendre. Si on reste à l'intérieur, c'est l'insécurité pour nous.
Juste en face du marché central, les décombres des marchandises brûlées sont entassés au milieu de la chaussée, empêchant la circulation des engins et des piétons. Ce passant s'en plaint.
Vous savez bien que le marché central, c'est le marché populaire, là où les étrangers ainsi que les centrafricains viennent se procurer leurs besoins ici au centre-ville. Donc il fallait nettoyer au fur et à mesure pour laisser le centre-ville propre afin que ça puisse donner une bonne image. Mais ce n'est pas ça la position et fin de fin, ça devient aussi maintenant une place pour les délinquants pour pisser n'importe comment et ça donne une mauvaise odeur dans la ville.
Entre 2014 et 2016, le marché central de Bangui a enregistré 5 cas d'incendie. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En Guinée, après la réapparition du virus Ebola, la riposte organise de nouvelles mesures prises pour prévenir la propagation de la maladie. Zakaria Kamara est notre correspondant à Conakry.
Les autorités guinéennes ont confirmé la réapparition de la maladie de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans le pays. Abdoul se dit triste, ce jeune diplômé sans emploi reste marqué par la perte de ses proches.
Ebola a contribué à la baisse de notre économie. Ebola nous a fait perdre plein de nos proches. Donc, savoir qu'Ebola est de retour aujourd'hui, j'ai peur.
À la peur s'ajoute l'inquiétude de devoir le pays replonger dans l'isolement avec des conséquences que ces Guinéens ne souhaiteraient pas revivre.
On pensait que toute machine a été déjà derrière nous. Il réapparaît encore. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est demander au service de santé de vraiment redoubler d'efforts et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut pour ne pas que ça se propage encore de nouveau.
Ebola, c'est un truc qui a bouleversé la Guinée. Et si vraiment j'apprends que ça, c'est revenu encore, j'ai vraiment peur pour la Guinée, vu que ça ne marche pas trop maintenant.
Il y a seulement quelques jours, 2 des 4 cas suspects sont testés positifs à Ebola après le décès de 3 personnes de la même famille à Koropara dans le sud du pays. Dans un communiqué, l'ambassade des États-Unis en Guinée rassure que les experts des centres américains de contrôle des maladies sont dans la localité touchée, mais d'autres travaillent avec les services guinéens pour le suivi des contacts. Conakry, Zakaria Kamara pour la Voix de l'Amérique.
En Somalie, les militants d'Al-Shabaab ont attaqué une base militaire du gouvernement. 6 soldats ont été tués. L'attaque a visé la base de Lantabou, à 40 km au sud de Mogadiscio. Aux premières heures de ce lundi, plusieurs véhicules militaires ont été saisis d'après les autorités somaliennes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Barack Obama rencontre Raúl Castro aujourd'hui pour donner une nouvelle impulsion au rapprochement engagé à la fin de 2014 entre les États-Unis et Cuba. Le chef de l'exécutif américain est au 2e jour d'une visite historique à La Havane pour Barack Obama qui va quitter la Maison-Blanche dans 10 mois. L'objectif est clair, rendre irréversible le dégel avec La Havane, quel que soit le nom de son successeur en 2017, démocrate ou républicain. Raúl Castro, de 30 ans, son aîné, devrait, lui, une nouvelle fois plaider pour la suppression de l'embargo qui pénalise son pays depuis 1962. Le maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé une forme très communautariste d'organisation de la commune bruxelloise de Molenbeek. Elle a dénoncé et qui a sans doute protégé Salah Abdeslam, le seul survivant du commando auteur des attentats djihadistes du 13 novembre, suspect clé des sanglants attentats de Paris. Salah Abdeslam, en fuite depuis plus de 4 mois, a été capturé vendredi à Molenbeek. Il est désormais incarcéré dans la prison de haute sécurité de Bruges, dans le nord-ouest de la Belgique, dans l'attente d'un transfert en France contre lequel son avocat bruxellois belge a commencé une bataille judiciaire. Et puis la Corée du Nord a procédé aujourd'hui à de nouveaux tirs de missiles ou roquettes de courte portée qui ont plongé dans la mer, a annoncé un responsable militaire sud-coréen dans un contexte de tensions grandissantes sur la péninsule. Pyongyang avait déjà tiré vendredi 2 missiles balistiques de moyenne portée. Le Conseil de sécurité avait condamné fermement ces tirs, les qualifiant de violations flagrantes des résolutions de l'ONU. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.